podcast de Radio Vatican.
Reims, Paris, Monaco, Sainte-Anne-d'Auray et Perpignan, voilà les cinq villes qui accueilleront les veillées de prière pour la Nuit des Témoins 2017. Elle commence ce jeudi 23 mars et finit lundi 27 mars. Parmi les grands témoins cette année, l'aide à l'église en détresse qui organise la Nuit des Témoins a invité le père Jacques Mourad, prêtre syrien et moine de la communauté de Marmoussa qui a été otage pendant 5 mois de l'État islamique. Le père Philippe Blot, missionnaire des MEP, engagé auprès des réfugiés nord-coréens, est aussi invité. Et enfin la mère Marie-Catherine King, la fondatrice de la Congrégation des Servantes du Christ. Depuis 2006, elle œuvre au Niger, dans la région de Maradi, à 650 km de la capitale Niamey. Ce territoire est une région très peuplée qui connaît une insécurité alimentaire, des difficultés d'accès à l'éducation. Les femmes et les enfants sont très vulnérables et touchés par les mariages forcés et l'excision. Nous avons interrogé Mère Marie-Catherine Kingbo. Elle témoigne de sa mission dans ce pays à 98% musulman.
Il nous fallait mettre l'accent sur la formation des femmes, l'éducation des enfants, la scolarisation surtout des jeunes filles et des garçons, lutter surtout contre les pratiques ancestrales comme l'excision, lutter contre les mariages forcés et les grossesses précoces qui empêchent les filles d'aller à l'école ou bien tout simplement d'avoir un cursus scolaire normal. En effet, à Maradi, l'âge moyen du premier mariage pour les filles et de 12 ans à 15 ans, et de 18 ans pour les garçons. Donc voilà comment nous avons commencé nos sessions, et grâce aux sessions de sensibilisation et à la vulgarisation, car c'était très important, dont on essayait de vulgariser les décisions. Des villages ne pratiquaient plus les mariages précoces et forcés. Les femmes ont eu le courage de nous donner ce témoignage. Également, dans ces défis à relever, il faut noter aussi l'ouverture de notre préscolaire du feu l'année dernière, où nous favorisons l'éducation des enfants valides et handicapés. Et l'accueil d'enfants handicapés à l'école nous permet aussi de lutter contre la mendicité.
C'était, j'imagine, pour certaines et peut-être beaucoup de ces femmes, la première fois qu'on leur parlait de tels sujets, en tout cas que de telles sessions étaient organisées avec elles. Est-ce que vous vous rappelez dans vos échanges des choses qui vous ont surprise? Quelles étaient peut-être les difficultés dans ces échanges avec ces femmes?
Ce qu'on a constaté, elles ignoraient beaucoup de choses. Et quelques-unes nous ont dit, après ces rencontres, on était dans les ténèbres. Et maintenant, nous sommes vraiment dans la lumière. Je crois que ça veut tout dire. Ça signifie qu'elles ont appris, qu'elles ont assimilé les enseignements que nous leur avons donnés. Et ça, c'est capital. Et ce qui est aussi étonnant, des jeunes garçons sont venus vers nous pour nous demander également une formation, parce qu'eux-mêmes constataient l'impact de nos sessions dans leur village.
Alors, sur les mariages forcés, par exemple, qu'est-ce que vous disiez à ces femmes?
Eh bien, les conséquences, bien sûr, des mariages précoces et des mariages forcés, nous constatons vraiment la mortalité de beaucoup d'enfants et même aussi des femmes qui meurent en accouchant, et puis aussi pas mal de maladies. Et ce que nous avons également constaté, lorsque des jeunes filles qui ont 12-13 ans, eh bien, lorsqu'on les donne en mariage, et malheureusement, elles gobent une maladie, eh ben, que fait le mari, le conjoint? Eh ben, il répudie tout simplement la jeune fille. Et voilà un peu dans quelles conditions qu'elle se trouve, dans de très mauvaises conditions, je dirais. Les femmes ont compris également qu'il fallait laisser quand même la liberté aux enfants de choisir leur conjoint. Et puis aussi, donner en mariage aux filles ne favorisait pas du tout leur épanouissement et leur évolution.
Quel lien entretenez-vous avec les responsables locaux sur place, avec les imams?
Et nous avons organisé des rencontres avec les imams et les chefs de village pour les conscientiser également sur les conséquences de ces mariages précoces et forcés. Et ils étaient vraiment à notre écoute et ils ont aussi essayé de sensibiliser la population pour essayer de remédier à ce fléau. Et vraiment, je ne vous le cache pas, on sent vraiment beaucoup de fruits, beaucoup d'évolution dans ces villages, grâce à notre collaboration avec les imams et les chefs de village. Ils nous aident dans la sensibilisation des parents, puisqu'ils sont très proches des habitants, ils vivent avec eux et partagent aussi leurs coutumes. Et ces chefs sont très écoutés et par les populations, et ainsi, ils peuvent les dissuader. Alors, ils nous aident également dans la sensibilisation que nous faisons auprès des populations. Mais que la forte majorité musulmane, 98%, vraiment, je peux dire que les relations sont très bonnes. On a commencé les sessions avec eux en 2007. Ils étaient 24 et maintenant, ils sont plus d'une centaine.
Vous me disiez que vous donc, travaillez également sur l'éducation des enfants. Quel est le problème de scolarité que connaît le Niger?
Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'enfants scolarisés, surtout au niveau des villages, à cause de la pauvreté. Il n'y a pas assez aussi d'infrastructures. Parfois, les enseignants ne sont pas toujours payés, ils ne sont pas réguliers à l'école. Donc, il y a pas mal de difficultés quand même que rencontrent les parents et les enfants et ce qui les bloque, ce qui les empêche d'inscrire leur enfant à l'école. Mais nous constatons quand même que les parents veulent inscrire leurs enfants. Et ça, ils nous l'ont dit encore lors de la dernière réunion, lors de la dernière rencontre avec les imams au mois de février dernier. Ils sont prêts à envoyer, à inscrire leurs enfants à l'école. Vraiment, nous constatons une évolution, un changement de mentalité. Ça, c'est clair.
Des propos recueillis par Sarah Bakaloglou.